Merci beaucoup, Denis. On va y aller. On va aller dans la parole de Dieu, on va aller devant le Seigneur. Encore une fois, c'est un privilège d'apporter la parole de Dieu. C'est un privilège de pouvoir dire le cœur de Dieu pour ses enfants. C'est un privilège de pouvoir proclamer la parole devant le peuple de Dieu. Mais je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire sans l'aide du Saint-Esprit. Je vais juste prier. Père, je demande maintenant que ton onction soit sur moi. Je demande maintenant que ton onction soit sur moi, que ton esprit soit là. Que ton esprit, Seigneur, vienne, que ton esprit, Seigneur, domine sur ce lieu, que ton esprit se pose sur tes enfants. Je prie pour que les cœurs soient disposés maintenant. Je prie pour que ton onction révèle les choses. Seigneur, moi, je prêche aujourd'hui en moi-même. Je vais prêcher en mon cœur. Je n'arriverai pas à convaincre mon cœur sans ton esprit. Alors, je n'arriverai pas à les convaincre sans ton esprit. Seigneur, j'ai besoin de ton esprit sur eux, sur chacun d'entre eux. Seigneur, que ton esprit agisse maintenant. Prends le contrôle de toutes choses. Je me mets sous ta puissante main. Amen. Amen, amen. Ce que j'ai à partager aujourd'hui est un avertissement. C'est un avertissement pour le peuple de Dieu, pour celui qui est fidèle, qui marche avec Dieu, celui qui cherche le Seigneur, mais pour celui qui rétrograde aussi. C'est un avertissement pour celui qui a tendance à être en dehors du plan de Dieu. C'est un avertissement pour celui qui court pour atteindre le but. C'est un avertissement, je parle aujourd'hui, j'avertis mon cœur. Je veux avertir mon cœur à cause de la dangerosité de tout ce qui va arriver. Je veux dire à mon cœur aujourd'hui, sois alerte. Je veux dire à mon cœur, réveille-toi. Je veux dire à mon cœur, c'est maintenant ou jamais. Je vais parler de quelque chose que peut-être vous serez choqués quand je vais parler. Mais je vous préviens que ça va être quelque chose qu'on a besoin pour la fin des temps. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Garde ton attachement à Christ ». Garde ton attachement à Christ. Pour ce faire, nous allons entrer dans un texte bien connu, connu de tous les chrétiens. Mais si souvent on saute ce texte, on passe par-dessus, c'est pas quelque chose qu'on s'y arrête volontiers. Parce que il y a quelque chose dans ce texte qui pique un peu notre vie, qui pique un peu notre cœur. Voici le texte, c'est dans Apocalypse 2, 1 à 7. Écrit à l'ange d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonner ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, ce que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. la parole de Dieu vient sur Jean avec une révélation. Jean est comme, il voit une vision et en même temps, la révélation de Dieu. Et au tout début, il y a comme un ange, l'ange qui a été envoyé vers lui. Mais la vision n'est pas expliquée. C'est directement après, il voit. Il voit un fils de l'homme qui est au milieu des chandeliers. Et en fait, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ se trouve au milieu des sept églises. Et les sept églises, c'était des églises qui existaient au temps de l'apôtre Jean. C'est vraiment des églises qui existaient. Et ce texte parlait à ces églises-là, mais ce texte parle aussi à toute l'église de tous les temps. Ça ne s'arrête pas à ce moment-là, parce que le texte a été donné à ce moment-là. Mais le texte parle à travers tout le temps, mais ça parle beaucoup plus pour nous qui sommes ici aujourd'hui. C'est-à-dire que ce texte-là s'adressait à l'église d'Éphèse. Et vous pouvez imaginer, autour de Jésus, il y a cette église. Je sais pas, vous avez déjà vu les masques, les casques pour aller visiter une maison. Vous, vous vous trouvez ici, mais vous visitez la maison avec le casque en 3D. Vous avez, c'est comme si vous voyez un film, mais vous êtes dedans. Voilà, c'est ça le et c'est un peu comme ça ce que Jean vit à cet instant-là. Il voit le Seigneur en train de marcher. Le Seigneur marche autour des chandeliers. Et il voit l'église d'Éphèse. Il voit l'église de Thyatire. Il voit l'église de Pergame. Il voit l'église de Laodicée. Il voit l'église de Philadelphia. Il voit les sept églises autour de lui. Et il voit tant de choses superbes que chaque église est en train de faire. Il voit leur persévérance. Il voit vraiment tant de choses. Il marche à côté d'eux, au milieu d'eux, et il ressent quelque chose. Il est en train de voir. Jésus là, il est habillé comme un sacrificateur. Il est vraiment dans sa stature d'aujourd'hui. Il n'est pas l'enfant Jésus qui est venu. Il n'est pas le serviteur souffrant qui est venu. Il n'est pas celui qui est venu avec les faiblesses de l'homme qu'il portait. Là, il vient comme un sacrificateur. Il vient là et il pose un regard sur l'église et il est en train de voir ce qui ne va pas. Vous savez que le jugement de Dieu commence par l'église. Et l'église de la fin des temps, l'église, notre église de réveil comme elle est aujourd'hui, Jésus marche au milieu de nous. Et il marche et il y a des choses qu'il ressent. Il ressent des choses tellement dans nos vies, tout ce que nous vivons, il le ressent. Ce texte s'adresse à l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse, c'est une église tellement bien. C'est une église tellement bien. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur reproche à bien des églises. Quand il est au milieu des sept chandeliers, il voit des faux docteurs. Il voit les esprits de Jézabel qui sont qui sont à l'œuvre au milieu des églises. Il voit les fornicateurs, il voit les adultères, il voit l'adoration morte, il voit l'esprit d'aveuglement, il voit la convoitise, il voit les premières choses qui sont là, qui sont en train de... Il est en train de les checker dans les vies de l'église. Mais Jésus s'arrête pour la première fois sur une chose. La chose qui l'attriste le plus, la chose qui le touche le plus. Il voit tout ce qui va et il voit tout ce qui ne va pas. Mais même parmi les choses qui ne vont pas, la chose qui le touche le plus, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Les gens parlent du fait qu'au bout d'un moment, quand on marche avec Dieu, on perd la ferveur du début. On perd les choses qui nous a animés quand on était en train de trouver le Seigneur. Mais en fait, ce qui se passe exactement ici, c'est que l'amour qui anime le Seigneur, c'est un amour exclusif. C'est un amour qui c'est pas le premier seulement, c'est pas seulement le deuxième, c'est pas seulement le troisième. Mais le Seigneur, à un moment donné, dans notre vie, il était tout pour nous. Il était tout pour nous. En tout cas, moi, à un moment donné, Dieu visite mon cœur et je ne peux pas faire autrement que d'aller lire la Bible. Je ne pouvais pas faire autrement que de venir aux réunions. Je ne pouvais pas m'éloigner de sa présence. J'avais constamment l'Éternel devant mes yeux. Exclusivement, l'amour de Dieu est fixé sur moi et mes yeux fixés sur lui. L'amour exclusif. C'est pas cette première amour immature. C'est pas cette première amour qui est là en train de juste s'émerveiller. Enthousiaste, oui, ça fait partie de tout. Mais c'est un amour exclusif. Et le Seigneur marche et il voit tout ce qui va et il voit tout ce qui ne va pas. Le Seigneur Jésus complimente l'église d'Éphèse et il parle, il dit des choses comme ça. Vous, il le dit à travers l'apôtre Paul. Hein. Là, il y a tout ce que Jésus dit dans le texte, mais ce que je vais dire maintenant, c'est ce que l'apôtre Paul parle de l'église d'Éphèse. L'apôtre Paul dit de l'église d'Éphèse, il dit, vous êtes des saints. Il les appelle les saints. Il les appelle, vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. Il les appelle élus de Dieu. Vous êtes élus de Dieu. Il les appelle les saints, irréprochables devant lui. Il les appelle, vous êtes adoptés. Dieu vous a adopté. Vous êtes accepté dans le bien-aimé. Vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous êtes scellé du Saint-Esprit. C'est une église. Il n'y a pas d'église parfaite, mais c'est une église tellement forte, ancrée dans l'évangile. Et vraiment, c'est une église. Et l'apôtre Paul continue, il prie encore pour eux. Il prie pour eux et il dit qu'ils ont un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il prie pour eux et dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il prie encore et dit, vous connaissez l'infinie grandeur de sa puissance envers vous. Il dit, il vous a rendu à la vie. Il vous a fait asseoir dans les lieux célestes. Vous êtes son ouvrage édifié en Jésus-Christ pour une bonne œuvre, créée pour être une habitation de Dieu en esprit. Quelle église! Quelle église! Comparons notre église, n'ayons pas peur de cela, parce que la parole vient sur nous. La parole est destinée à l'église de la fin des temps. Et cette parole vient sur l'église de réveil aujourd'hui. Calquez-vous, parce que vous êtes assis en Christ dans les lieux célestes aujourd'hui. C'est dur, cette parole. Quand, avec tout ce que cette église a fait, tout ce que cette église a persévéré, la parole qui vient, là où Jésus s'arrête, c'est qu'il dit ce que j'ai contre toi, ce que tu as perdu, cet amour exclusif que j'ai pour toi. Ton amour exclusif pour moi. Je reviens dans le texte. Et au tout début, il dit, vous êtes un peuple qui ne tolère pas le péché. Vous travaillez, vous faites vraiment des choses vraiment merveilleuses. Vous faites des choses bien. Vous vous occupez de l'église, vous vous occupez des gens. Vous faites des bonnes œuvres. Vous êtes un peuple qui ne tolère pas le péché. Vous ne le tolérez pas dans vos maisons. Vous ne le tolérez pas dans votre vie. Et vous ne le tolérez pas dans l'église. C'est bien. C'est bien de ne pas tolérer le péché. C'est ce que l'église d'Éphèse a fait. Il dit, vous n'êtes pas ballottés à tout vent de doctrine. Il y a tellement de mouvements qui viennent sur la terre, sur la doctrine. Il y a tellement d'enseignements. Mais Jésus parle à l'église d'Éphèse. Vous êtes arrimés, vous êtes attachés, vous êtes en train de suivre la bonne voie. Et il dit même quelque chose qui est vraiment impressionnant. Il dit, vous détestez les Nicolaïtes, tout comme moi, je déteste les Nicolaïtes. La doctrine des Nicolaïtes, c'est purement de l'antinomisme. Antinomisme, c'est un terme théologique. C'est un terme théologique pour dire qu'une fois sauvé, couvert par le sang de Jésus, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Que Dieu ferme les yeux sur toute œuvre de la chair, du moment que vous êtes couvert par le sang. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle quand je ne sais pas, dans votre vie, mais à un moment donné, moi j'ai senti ça dans ma vie en disant, écoute, j'aime le Seigneur, j'aime Dieu, je me suis engagé, baptisé, je sers dans l'église, je fais tout ce qu'il faut faire. C'est pas parce que je regarde le match de foot que le Seigneur ne va plus m'aimer. Et j'oblige le Seigneur à se plier à ma vie, parce que moi, je décide de voir le match. Il faut que Dieu passe par-dessus ça. Il sait qu'il m'aime. Il sait, il le sait. Je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur. Et c'est comme ça que Dieu, que Jésus marche au milieu de l'église. Et il voit l'église d'Éphèse. Et il pose un regard sur la vie des gens. Les péchés de sexualité, tout ce qui est, wow, le terme m'échappe, mais c'est comme si le cœur de l'homme se dit, ben, Dieu va fermer les yeux sur ça. Il m'aime tellement, Dieu m'aime tellement que sur ce point-là, moi j'ai que ça, quoi. Juste ce point-là, Seigneur. Juste ça, pas plus que ça. Là, c'est pas... C'est une église qui marche, c'est une église qui fonctionne. Mais juste sur des points, on voudrait que Dieu passe par-dessus. On voudrait que Dieu nous pardonne et nous, on garde, on continue notre vie comme si de rien n'était. Jésus marche au milieu de son église, il se fixe sur l'église d'Éphèse et il dit, il y a quelque chose qui ne joue pas là. Il y a quelque chose qui ne joue pas dans votre culte. Il y a quelque chose qui ne joue pas dans votre adoration, dans la manière où vous vous approchez de Dieu. Il y a quelque chose qui le gêne. Il y a beaucoup de choses qui le touchent, qu'il aime dans tout ce que nous faisons. Mais il y a des choses aussi qui l'attristent. Et il dit, je me sens mal avec ça. Je me sens pas bien avec ça. Notre amour pour notre Seigneur, c'est quelque chose qui dépend de notre choix personnel, qui dépend de notre manière de vivre. Mais c'est dans la vie de tous les jours que Jésus marche au milieu de son église. Et malgré tout ce qu'on peut faire de bien, quand le Seigneur s'arrête sur notre passion, ça veut dire qu'on a échangé notre passion. On a tronqué l'amour exclusif de Dieu à une autre passion. Mon plus grand problème, c'est de ne plus aller faire du basket. C'était énorme pour moi. C'était énorme d'abandonner ça. Et est-ce que Dieu, c'est le Dieu qui dit, écoute, tu n'as plus le droit de faire du basket? C'est pas comme ça qu'il dit. Mais qu'est-ce qui est faux? Ce qui est faux, c'est que ma passion, je sais que je suis dévoré par ça. Je suis dévoré par ça. Mais je fais exprès le choix de rester dans ça. Je fais la paix avec ça. C'est là le problème. Je fais la paix avec le péché. C'est là le problème. Je fais la paix avec des choses qui prennent ma passion. C'est là le problème. Jésus vient et dit, j'ai un problème avec ça. Tu as perdu ton amour exclusif. Tu as perdu ta passion. Tu as donné ta passion à quelqu'un d'autre. Tu as donné tout ton temps à autre chose. Et c'est ce que c'est ce qui touche le cœur de Dieu. C'est ce qui touche le cœur du Seigneur. David, dans le psaume 73 au verset 25, a dit une chose comme ça. Il dit, « Quel autre ai-je au ciel que toi ? Qui est sur la terre ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » David dit, « Jonathan est mon ami. Mon âme et l'âme de Jonathan, on est proches. Israël, c'est mon peuple. Tout ce qui se passe ici, ça me touche. La vie des gens me touche. Mais dis, ma passion, cet amour personnel que j'ai, je le donne qu'à toi. Je le donne à Dieu seulement. De la même manière pour moi, Jésus, j'ai rien d'autre de plus dans ma vie qui occuperait ma place, qui prendrait la place de la passion dans mon cœur, à part Jésus. » Il dit, au psaume 63, verset 1, il dit, « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. » En fait, ce texte parle de l'émotion qu'il y a dans cette biche qui cherche à être étanchée dans sa soif. Mais il se trouve qu'elle elle n'est pas en position de pouvoir boire. Donc elle doit aller faire l'effort, aller chercher. Elle cherche de partout. Elle commence même à trembler parce qu'elle ne trouve plus de l'eau. Et à un moment donné, elle trouve et elle boit. C'est cette recherche-là. C'est cette passion, c'est ce désir d'être étanché dans notre soif. Cette biche, vous pouvez lui donner à manger, elle ne mangerait pas sur l'instant. Ce qui importait pour elle, c'était de trouver de l'eau. Exclusivement orientée vers l'eau. Quand on est confronté à ce texte, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour », on a tendance à l'esquiver. C'est tellement facile de sortir et de dire, mais écoute, le Seigneur sait que je l'aime. Il le sait, c'est ma vie. Mais quand vous lisez des commentaires à propos de ce texte, vous allez voir des docteurs, des enseignants qui disent, je ne porte pas de jugement par rapport à ça, qui dit, c'est comme si, ouais, il y a juste une petite chose que j'aimerais rectifier dans ce que tu fais. Et on aurait dit que ça a été simplifié, que le mot du Seigneur a été affaibli. C'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui fait mal à Jésus. Ça lui fait vraiment mal. Ça lui fait vraiment mal. À un point, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Moi, je peux comprendre que je ne sais pas, moi, tromper sa femme ou son épouse, ça, c'est tombé. être dans la toxicomanie, c'est tomber, voler, c'est tomber. Des choses tellement difficiles, ça c'est tomber. Mais aimer, ne pas aimer Jésus avec passion, c'est tomber. C'est pour ça, revenez à ce texte et regardez, parce que c'est Jésus qui l'a écrit. C'est le message de Jésus pour nous. Il dit, souviens-toi, reviens un peu en arrière. Reviens, souviens-toi comment t'as été passionné par moi. Fais un pas en arrière et regarde ta vie. Souviens-toi de ce qui s'est passé dans ton cœur. Souviens-toi comment ça s'était passé. Les meilleures choses pour toi, c'était d'arranger, de demander pardon, d'aller vers le Seigneur, de prendre du temps, de chercher Dieu jusqu'à ce que tu trouves de l'eau. Reviens en arrière. C'est pour ça, quand on perd cet amour exclusif, on est dans la difficulté. Et malgré tout ce qu'on peut faire de bien dans l'Église, voyez-vous, de faire quelque chose de bien dans l'Église fait partie de porter sa croix, fait partie de marcher en Dieu. Mais là, ce que le Seigneur reproche, c'est notre attachement à qui il est. Et c'est de ça qu'on doit évaluer à chaque fois. On doit tout le temps revenir et jauger notre passion, parce que c'est à ça que nous savons si nous sommes passionnés pour Dieu ou pas. Si notre passion, et par exemple, si moi, en tant que conducteur de louange, et puis je fais partie du conseil de l'Église, je suis en train de servir l'Église, en train de faire ce que le Seigneur me demande de faire. Mais je peux le faire aussi avec un amour qui meurt en moi. Je peux le faire de manière à être juste assuré ce qu'il faut faire, quoi. Je dis, écoute, je vais assurer. Je serai là. C'est ce que je leur dis. Je serai là. Mais pourquoi le Seigneur me le dit? C'est parce qu'il voit, il marche encore au milieu de l'Église. Il marche et il voit et il constate que mon amour pour lui diminue, que je prends de moins en moins de temps. Si vous voulez savoir si votre amour est toujours là, évaluez. Est-ce que c'est le temps que vous passez seul avec lui? Vous passez plus de temps seul avec lui ou votre passion pour autre chose prime? Ça peut être vraiment des choses magnifiques. Ça peut être des choses légitimes. Ça peut être des choses qui sont bien en tant qu'être humain, en tant que citoyen suisse. Il y a des choses légitimes. Mais nous sommes les amis de Dieu. Nous sommes des amis du Seigneur. À un moment donné, le Seigneur dit à son serviteur, il dit, va chercher mes amis. Il dit, va chercher mes amis parce que j'aimerais passer un temps privilégié avec eux. Et le serviteur est allé et il a rencontré le premier ami du Seigneur. Et le premier ami, il a dit à cette première amie, le Seigneur a préparé une table pour toi. Il veut t'inviter. Et le premier ami a dit, écoute, j'ai acheté un champ, c'est quelque chose pour moi de très important, je ne l'ai pas encore vu, je l'ai acheté sur Internet, il faut que j'aille le voir, il faut que j'aille le voir, parce que tu vois, c'est important, je ne peux pas, excuse-moi s'il te plaît, dis-le au Seigneur. Et l'intercesseur, il va, puis, Seigneur, pardonne-le, parenthèse. Un autre ami, il va voir une autre amie et l'autre ami dit, le Seigneur de ta vie, ton ami, celui que ton âme aime, prépare une table pour toi. Est-ce que tu viendrais? Et l'ami de Jésus dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Il faut que j'aille les essayer, c'est super important. Écoute, si ça ne fonctionne pas, je serais mal barré. Alors s'il te plaît, pardonne-moi, excuse-moi auprès du Seigneur. Je ne viendrai pas. Il va vers un autre serviteur. C'est un jeune, celui-là. C'est un jeune plein de feu. Il aime Dieu, il aime le Seigneur et tout ça. Et il dit, ton Seigneur a préparé une table pour toi. Il a préparé quelque chose de spécialement pour toi. Et le gars, il dit, écoute, ça me touche. Ça me touche. Ça me touche énormément que le Seigneur pense à moi. Mais je viens de me marier. Je viens de me marier. Il faut que j'aille en lune de miel. Je vais aller en Espagne. Le cœur de ce jeune homme, le cœur de cette jeune femme, amie du Seigneur, remplie de tout ce que Dieu a donné. Et il dit, excuse-moi auprès du Seigneur, je suis occupé. Je dois, voilà, j'ai droit aussi au bonheur. Quelle excuse nous sépare de la présence de Dieu, de l'intimité avec notre Seigneur. C'est légitime. Toutes ces choses qui sont légitimes, c'est vraiment quelque chose qui est préparé pour nous. Mais si nous ne plaçons pas par priorité, si nous ne plaçons pas les choses de manière à ne pas mourir dans notre amour pour Dieu, ils vont être des excuses pour notre Seigneur, qui écarte notre Seigneur, qui enlève, et c'est ça qui le touche, quand il dit, tu as perdu ton premier amour. Il y a tout ce que nous faisons de bien, il y a tout ce que nous faisons de très bien, mais il y a celui qui a dévoré notre passion. Il y a toutes les excuses qu'on présente à Dieu, des excuses légitimes. Mais ce que Jésus veut, c'est un temps d'intimité. Un temps d'intimité. C'est pour ça qu'il dresse une table. Un temps d'intimité où il peut venir et toucher les choses dans notre vie. Vous connaissez le psaume 23. C'est pas écrit ce qu'il y a sur cette table. Mais le Seigneur a préparé une table. Ne permettons pas aux excuses de gagner par rapport à qui nous sommes. Il y a des périodes dans notre vie, des fois on est passionné par Dieu, et des fois on est fatigué, des fois c'est normal de baisser de rythme, c'est normal de ne pas être toujours un niveau spirituel tellement fort. Mais il y a une histoire qu'on devrait retenir. Cette histoire se trouve dans le livre des Cantiques des Cantiques. Cette histoire parle d'une jeune fille et son amoureux. Bien sûr, ça parle de Jésus et l'Église, sa fiancée. À un moment donné, cette fiancée, qui est le Seigneur, vient toquer à la porte. Il toque à la porte et il demande, ouvre-moi ma chérie, en fait. Ouvre-moi, mes boucles sont mouillées, je suis pas confortable ici, la rosée est là, s'il te plaît, ouvre-moi. Et la fiancée a déjà... Elle s'est préparée, c'est une dame bien, quoi, je veux dire. Elle s'est préparée, elle était déjà au lit, elle s'est installée. Et elle dit, écoute, je suis déjà installée, je suis déjà au lit. Je ne vais pas encore me rhabiller pour t'ouvrir. Et il se passe quelque chose dans le cœur de cette dame. Tout d'un coup, elle se dit, mais peut-être quand même qu'il faut que j'aille l'ouvrir. C'est quand même mon bien-aimé. C'est quand même celui que mon cœur aime. Écoute, je vais me lever. Je vais me lever, je vais m'habiller. Écoute, je ne suis pas habillé, donc je vais m'habiller et je vais aller ouvrir à mon bien-aimé. Mais ce qui se trouve, c'est que quand elle va, elle ne trouve plus le bien-aimé. Elle va, il a passé sa main sur, à l'intérieur de la fenêtre, et la bien-aimée a frémi parce qu'elle a ressenti la présence de son bien-aimé. Et quand elle se lève, elle va aller à sa rencontre, il n'est plus là. Il n'est plus là. Et c'est là que ça s'accélère dans son cœur. C'est là que ça devient dramatique pour elle. Parce qu'en fait, le bien-aimé est parti. Il est parti. Alors elle court, elle se lève, elle s'habille vite, elle met tout ce qu'elle doit mettre et puis elle sort, elle court dans les rues, elle va vers les gardes. Est-ce que vous avez vu mon bien-aimé? Et terrible dans l'histoire. Les gardes, c'est les gardes qui disent « Quel bien-aimé !» Mais il y a des choses dans notre vie, quand on perd Dieu dans notre vie, l'adversité même des gens qui sont pour toi deviennent contre toi. Parce que tu as perdu la passion de la bien-aimée. Du bien-aimé, pardon. Elle va vers les gens de la ville, elle rencontre des filles de Jérusalem, elle dit « Est-ce que vous avez vu mon bien-aimé? Est-ce que vous avez vu mon bien-aimé? » Il y a combien de fois il y a des gens qui vont faire des kilomètres juste pour participer à un séminaire. Moi, je suis comme ça. Il y a des gens, ils ont pris l'avion pour aller au Canada juste pour rencontrer le bien-aimé. C'est ce que nous avons vécu. C'était comme ça. Pourquoi? Parce que il y a cette soif, ce désir de cet amour exclusif qu'il a préparé pour moi. Cette histoire ne se termine pas comme ça, mais le texte le met comme en suspens, comme si il ne veut pas révéler la fin de cette histoire. Elle n'a pas trouvé son bien-aimé. Et le texte s'arrête là. L'histoire qui est contée s'arrête là. C'est dramatique. C'est dramatique quand on perd, alors qu'on est quand même dans une église comme l'église d'Éphèse, qui est une église qui marche dans le Seigneur, qui aime son Dieu et qui ne s'est pas lassée, mais à un moment donné, qui perd le premier amour, l'attachement à Jésus. Il y a des choses qui prennent le dessus. Tout ce que nous faisons dans notre vie d'église, c'est des choses bien. Et nous le faisons vraiment bien. Mais faisons attention à partir du moment où nous sentons que la température diminue, que notre passion est en train de s'enfuir, que nous ne ressentons plus la présence de Dieu, la présence de notre Seigneur. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Un jour, un jeune homme qui est dans cette église m'a appelé. C'était il y a longtemps, très longtemps. « Écoute, il faut que je te voie. » Je dis « Ok, on se donne rendez-vous à l'église. » On s'est donné rendez-vous ici devant l'église. Et le jeune homme était en pleurs. Il était en pleurs parce que il dit « Écoute, j'ai trahi le Seigneur. J'ai chuté. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie qui fait que je me sens séparé de Dieu. » Est-ce que tu crois que Dieu me donnerait une seconde chance? Je dis, mais Tu as fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, c'est dans ma vie, le Seigneur sait, il y a telle chose qui s'est passée. Mais tu sais, j'aime le Seigneur. J'aimerais changer. J'aimerais vivre quelque chose avec Dieu. Est-ce que tu es d'accord de prier pour moi? Tu dis, je vais prier pour toi. Je veux vraiment prier pour toi. Et je suis sûr que Dieu va te pardonner et te donnera une seconde chance. J'ai prié pour lui. Et il a recommencé sa vie. Le jeune homme est parti libéré. Libéré, soulagé. C'est exactement ce qui est dit dans ce texte. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Il ne suffit pas juste de se repentir, il faut pratiquer ce que nous pratiquions avant. Je vais terminer par le fait que quand nous sommes témoins de Jésus, l'Esprit du Seigneur est en nous. C'est le plus grand don que Dieu donne à l'être humain parce que c'est une sorte de marque de confiance. Il te confie son esprit. Mais ce qu'il dit dans ce texte, c'est que ça peut arriver. Ça peut arriver dans des situations. Il est obligé d'enlever le chandelier sur ta vie. De la même manière que ce jeune homme est venu et s'est repenti, j'ai vécu aussi autre chose. J'ai vu quelqu'un qui était un musicien hors pair, quelqu'un que Dieu utilisait. Il se mettait au piano et tac, il pose sa main sur le piano et l'onction du Seigneur vient. Les gens commencent à adorer. C'est quelqu'un de loin de Dieu. Mais à un moment donné, il vit quelque chose qui le sépare de la présence de Dieu. Et je ne sais pas comment, mais ce frère perd l'appel de Dieu dans sa vie. Il perd complètement l'appel de Dieu. Il aimerait servir Dieu, mais personne ne l'appelle. Il aimerait poser sa main comme ce qu'il faisait avant, dès qu'il joue, mais l'onction ne descend plus. Le frère me dit, prie pour moi, s'il te plaît. Parce que j'aimerais retrouver ma passion. J'aimerais retrouver l'onction du Seigneur. J'aimerais retrouver mon appel. Prie, s'il te plaît, pour moi. Quand je prie pour lui, je commence à prier et tout d'un coup, il y a un sentiment de malaise qui vient. Je me sens mal à l'aise de prier pour lui. Mais le Saint-Esprit me dit, prie pour lui, prie pour lui. Je prie, je continue à prier et je pose ma main sur son cœur. Je prie, Seigneur, restaure-le, pardonne-le, redonne-lui son ministère, Seigneur, pardonne-le. Et le gars, il repart. Je le recroise bien des années plus tard. Il est en train de jouer dans les boîtes de nuit comme musicien professionnel. Après avoir commencé à diriger la louange, après avoir été dans la maison de Dieu, se retrouver dans des endroits... Non, c'est dramatique. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce jeune homme? Le chandelier a été ôté. Le chandelier de sa vie, le Saint-Esprit, son statut de témoin, ce qui fait qu'il peut témoigner de Jésus-Christ, ce qui fait qu'il peut parler de Jésus, ce qui fait qu'il peut adorer, ce qui fait qu'il peut prêcher, ce qui fait qu'il peut évangéliser, a été enlevé de sa vie. Enlevé. Le Seigneur, c'est pas son but premier d'enlever. Son but premier, c'est de nous remplir de son esprit. Son but premier, c'est qu'on soit revêtu. C'est pour ça qu'il dit, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Amen. Amen, amen. Père, je te loue et je te remercie pour tout ce qui a été partagé. Seigneur, je prie pour que ton Esprit Saint convaincre. Seigneur, aujourd'hui, je prie pour que quelqu'un qui a perdu son premier amour soit restauré, ranimé à nouveau. Père, je prie pour qu'il y ait un élan nouveau. Je te demande de disposer les cœurs de manière à revenir vers toi, à te rechercher, à soupirer à toi, à faire ce que tu demandes de faire. Seigneur, dans les temps à venir, dans les jours à venir, dans les temps à venir, je te demande de restaurer la puissance de ton amour dans la vie de tes enfants. Alors que nous faisons ce que nous devons faire dans notre vie de tous les jours, Père, glorifie ton nom en nous. Garde-nous. Père, je demande qu'on puisse passer des moments privilégiés avec toi. Je demande qu'on puisse passer des temps d'intimité avec toi. Alors que tu nous donnes rendez-vous, convainc nos cœurs de venir au rendez-vous. Seigneur, je prie pour que toutes sortes d'excuses sortent de notre Église. Je prie pour que toutes sortes d'excuses sortent de cette Église. Au nom de Jésus-Christ, je brise tout lien, je brise toutes les chaînes, je brise les séductions, toutes ces choses qui nous séparent de l'intimité avec notre Dieu. Et au nom de Jésus, je prie. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le renouvellement. Merci pour le deuxième chance. Merci Seigneur pour la flamme qui recommence à brûler. Merci Seigneur pour le statut de fils, de fille de Dieu, notre chandelier allumé dans notre vie. Je te remets l'Église de réveil. Je te remets chaque personne qui en compose. Je te remets nos marches pour la fin des temps. Et Seigneur, garde-nous et donne-nous de garder notre cœur. Toi qui gardes nos vies, donne-nous de garder notre cœur. Seigneur, que chaque personne soit passionnée par toi et que ton amour exclusif dans notre vie soit toujours en vie jusqu'à ce que tu reviennes. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.